des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invitée dans cette nouvelle émission Parcours a découvert dans des organismes marins, et notamment les éponges, des molécules qui pourraient inhiber les protéines kinases, dont l'altération serait la cause d'un certain nombre de maladies neurodégénératives, des polykystoses ou autres cancers. Depuis plus de 20 ans, il a reçu de nombreux prix, notamment la médaille de bronze du CNRS, le prix Cuvier en 88, la médaille d'argent de nouveau du CNRS en 97, le prix Rosen de cancérologie, Fondation pour la recherche médicale, le prix Jean Valade Fondation de France en 2008 et en 2009, le grand prix Émile Jungfleisch de l'Académie des sciences. Laurent Mayer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à la station biologique de Roscoff, où vous dirigez le groupe phosphorylation de protéines et pathologies humaines. Vos découvertes à partir des invertébrés marins, alors les oursins, étoiles de mer et éponges, et votre travail à l'interface chimie-biologie ont conduit à la découverte de molécules potentiellement de grand intérêt thérapeutique, je le disais en préambule de cette émission. Avec vous, dans cette émission, nous parlerons des moments clés de vos recherches, de vos découvertes, bien naturellement, de la création de votre entreprise de biogénétique, Manrose Therapeutics, en 87, avec Hervé Gallon, et des possibilités à long terme d'améliorer le sort des patients atteints des maladies que j'ai pu citer au début. Auparavant, commençons par votre carrière. Quel était le chemin parcouru pour arriver à Roscoff ?
Alors, moi, j'ai fait mes études à Lille, l'Université de Lille. Et je crois que le lien avec Roscoff, ça a commencé par une émission de radio, curieusement. Donc, je travaillais le dimanche après-midi à Lille. C'était assez relativement calme. Et puis, le dimanche matin, il y avait une émission de radio. Je crois que c'était sur France Inter. Et c'est des reportages vraiment très locaux. Et il y avait quelqu'un qui se promenait en Bretagne, qui marchait à côté d'un marin. On entendait les algues qui crissaient sous les bottes du reporter. Et puis le marin à côté qui faisait des tas de commentaires. Et puis également, on entendait les goélands, tout ça. Alors ça m'a fait rêver. Et puis j'ai établi un lien avec la mer, comme ça. Et puis au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage de biologie marine à Roscoff. Et là, je suis tombé amoureux de ce coin. Et donc j'ai continué mes études en branchant le maximum d'activités avec la station biologique de Roscoff. Et à la fin de ma thèse, j'avais déjà passé quelques séjours à Roscoff. Je suis parti faire un stage postdoctoral aux États-Unis à l'université de Stanford. Alors, plus exactement, la station de biologie marine de Stanford, qui est localisée donc en Californie. Quand j'étais là-bas, je me suis présenté au CNRS et puis entre guillemets, manque de bol, j'ai été pris tout de suite. Et j'étais un peu désolé. À l'époque, j'étais vraiment très un peu inconscient, j'étais vraiment parti pour rester 2-3 ans là-bas, j'étais bien, et ce poste m'est tombé un peu tout cuit comme ça, et c'est vraiment une autre époque, on parle de la préhistoire. Donc mais finalement, je suis rentré à Roscoff, et puis je me suis installé là.
Donc vous êtes resté en fait depuis le début de votre carrière, vous êtes resté à Roscoff.
Oui, c'est ça, j'ai eu un seul poste, c'est une carrière assez linéaire. Ceci dit, ça a été entrecoupé de séjours dans pas mal de labos à l'étranger, en particulier un an à Seattle, 3 ans à New York.
Dans le cadre d'années sabbatiques ?
Voilà. Donc année sabbatique dans le sens anglo-saxon, le sens français, c'est vous allez à la pêche pendant un an. Et le sens anglo-saxon, c'est plutôt vous changez de bocal et vous travaillez sur d'autres sujets, vous imprégnez d'une autre culture. Et en fait, vous travaillez finalement peut-être plus que dans votre labo de départ.
Alors, c'est la recherche fondamentale qui vous intéresse
au départ. Alors, le point de départ, ça a été la recherche sur la division cellulaire. Et alors, comme tout grand domaine de biologie, pour étudier le problème, il faut utiliser des modèles qui sont vraiment représentatifs du sujet. Et pour chaque sujet, vous avez des modèles différents. Et donc, par exemple, si vous voulez étudier l'influx nerveux, il y a l'axone de Kalmar qui est une cellule parfaite. Et pour étudier la division cellulaire, il y a des différents modèles, notamment les œufs d'oursin ou les embryons d'oursin en division, qui sont très synchrones. Les œufs d'étoiles de mer aussi, qui se divisent très, très rapidement, très facilement.
Et alors, très rapidement, vous faites la corrélation, l'analogie entre l'étude de ces invertébrés, en tout cas de ces oursins, et après plus tard de ces éponges, avec le corps humain.
Alors en fait, les mécanismes qui contrôlent les phénomènes généraux, comme la division cellulaire, la mort cellulaire, ils sont extrêmement conservés à travers l'évolution, sont pratiquement les mêmes des invertébrés marins à nous, et avec des petites variantes spécifiques à chaque espèce, mais globalement, ce sont les mêmes mécanismes qui sont mis en jeu. Donc étudier ça chez l'oursin, ben c'est pas pour la poésie de l'étude sur l'oursin, c'est vraiment pour avoir le meilleur modèle, le plus simple, pour étudier un phénomène général. Et puis lorsque vous avez identifié des mécanismes, vous pouvez les rechercher dans les cellules humaines, qui sont peut-être plus difficiles à travailler. Et c'est toujours plus facile de trouver quand on sait ce qu'on cherche que lorsqu'on est un peu dans le noir et on explore.
Alors venons-en justement à ce travail. Je le disais au début de cette émission, je parlais de protéines kinases. Alors tout de suite, il va falloir que vous nous expliquiez en quoi consistent ces protéines kinases et quel rôle elles jouent.
Alors les protéines kinases, c'est une famille d'enzymes, une famille de protéines qui contrôle une réaction chimique, une réaction biochimique qui a lieu partout dans le corps. Et cette réaction, eh bien, c'est la réaction de phosphorylation. C'est-à-dire que les protéines qui nous constituent, et on doit avoir à peu près 30 000 protéines, eh bien, elles peuvent être phosphorylées, c'est-à-dire qu'un groupement phosphate va être greffé de façon covalente sur les protéines. Et la protéine phosphorylée, eh bien, elle n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que la protéine non phosphorylée. Et ça permet à la cellule, de contrôler très délicatement l'activité de ces protéines en changeant le niveau de phosphorylation. Alors, les protéines changent de propriété, changent de localisation dans la cellule, elles s'associent avec d'autres protéines, elles deviennent extrêmement instables ou très stabilisées en fonction du niveau de phosphorylation. Et c'est un mécanisme très général qu'on retrouve dans toutes les cellules, dans pratiquement tous les événements physiologiques auxquels vous pouvez penser, la contraction musculaire, l'influx nerveux, la division, la mort cellulaire, tout ça, ça implique des phosphorylations. Et donc si on pouvait bloquer de façon artificielle les phosphorylations, je crois que je ne finirais pas cette phrase, quoi, parce que c'est absolument vital pour tout, pour la vie. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est que la plupart des pathologies sont liées à des anomalies de phosphorylation.
Non, pas des protéines kinases qui seraient anormales, mais à la phosphorylation.
Alors voilà, c'est-à-dire que la phosphorylation est contrôlée par les kinases. Donc si les kinases sont trop actives ou inactives ou ne sont pas au bon endroit dans la cellule, eh bien, évidemment, il va y avoir une dérégulation et un niveau de phosphorylation anormal.
Donc une partie des maladies dont on a pu évoquer le nom au début de cette émission, je parlais de polykystose, c'est ça ?
Polykystose rénale, par exemple.
Qui sont donc des kystes au niveau des reins, cancer, et puis également maladies neurodégénératives. Alors on pense bien sûr à Alzheimer, mais c'est aussi la maladie de Parkinson.
Exactement.
Ces maladies seraient liées en partie à ces phosphorylations, conséquences de ces protéines kinases qui en font un peu qu'à leur tête.
Voilà. Donc, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est caractéristique. Il y a des protéines qui sont hyperphosphorylées, qui ont par exemple 20 sites de phosphorylation, alors que la même protéine dans un cerveau normal est phosphorylée sur 2-3 sites. Et lorsque la protéine est hyperphosphorylée, elle va s'agréger et former des dépôts cellulaires qui sont caractéristiques de la maladie, qui entraînent la mort cellulaire, la mort neuronale. Et ces mêmes protéines avaient été découvertes par Alois Alzheimer. Il avait vu des dépôts dans les coupes des cerveaux de ses patients après leur décès. Il avait observé des dépôts cellulaires qui sont encore la marque de la maladie. Et il a fallu attendre les années 60 pour qu'on identifie la nature de ces protéines. Et ce sont des protéines qui sont agrégées parce qu'elles sont hyperphosphorylées. Donc l'idée simplissime, c'est si vous pouvez ralentir, freiner ou diminuer la phosphorylation, ben peut-être que vous pouvez ralentir, diminuer ou freiner l'évolution de la pathologie.
Et ça a été donc l'objet de la suite de vos recherches,
voilà.
C'est-à-dire d'inhiber effectivement ces protéines avec alors une molécule, je le dis, qui s'appelle roscovitine. Alors un rapport avec Roscoff, j'imagine.
Vous avez bien deviné. vous avez du flair. Oui. En fait, le point de départ, ça a été l'identification dans les œufs d'étoiles de mer d'une protéine kinase qui contrôle la division cellulaire. Alors pourquoi dans l'étoile de mer? Parce qu'il y en avait des quantités astronomiques, on ne sait pas trop pourquoi, qui sont exprimées. Et ça nous a permis de purifier cette kinase. Et cette kinase est conservée, on la retrouve chez l'homme, dans toutes les cellules qui sont en division, cette protéine kinase apparaît. C'est vraiment le régulateur de la division cellulaire. Et ça a valu d'ailleurs l'identification de cette protéine. Ça a valu un prix Nobel en 2001 à Paul Nurse et Tim Hunt. Donc, ils avaient découvert par des moyens différents. Eux, ils avaient découvert ces protéines chez la levure et dans l'œuf d'oursin également.
Alors, pardonnez-moi de vous reposer la question pour être certain d'avoir bien compris. Oui. Là, cette roscovitine existe à l'état naturel chez l'homme ou uniquement chez l'étoile de mer?
Alors, on y vient. Une fois qu'on a identifié cette kinase, on s'est dit on va rechercher des inhibiteurs, des molécules qui bloquent la kinase, qui s'appelle CDK-cycline. Et dans le but de bloquer la division cellulaire et éventuellement bloquer la division des cellules cancéreuses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une petite molécule qui s'appelle roscovitine, qui est un inhibiteur de la kinase contrôlant la division cellulaire.
Et qui existe chez l'étoile de mer, mais en l'occurrence qui n'existe pas chez l'homme.
Le point de départ, c'est la découverte de la kinase qui contrôle la division cellulaire, kinase vraiment importante. Ensuite, l'idée, c'était d'inhiber cette kinase, de trouver un désinhibiteur. Donc, on a fait un criblage, c'est-à-dire on a passé des milliers de molécules sur cette kinase en espérant trouver un inhibiteur. Et le premier produit, un des premiers produits, ça a été une purine. C'était une petite molécule d'origine naturelle qu'on a modifiée chimiquement. Et ça, cette première molécule active, on l'a appelée roscovitine.
Vous avez fait des essais sur les souris. Qu'il y a des essais déjà cliniques
alors,
en cours?
Alors, c'est plus indirect que ça. On a commencé par des essais sur des cellules en division. Donc ça, c'est assez facile de cultiver des cellules tumorales humaines. Et puis, vous pouvez ajouter des doses croissantes d'un produit, comme la roscovitine. Et vous voyez que vous bloquez la division cellulaire et également vous déclenchez la mort de la cellule. Donc ça, c'est le point de départ. Après, vous passez sur l'animal des modèles de cancer chez la souris. Donc, vous induisez un cancer, il y a différentes méthodes. La tumeur se développe et vous traitez la souris en espérant bloquer le développement de la tumeur. Donc là, il y a une activité antitumorale qui a été identifiée. Et après, avant de passer chez l'homme, il faut faire une grande quantité de tests, disons précliniques, surtout en particulier sur la toxicité des produits, vérifier que les produits ne sont pas toxiques et qu'on peut se lancer dans des injections chez l'homme sans trop de mal.
Donc des essais en cours pour l'instant?
Non, alors ça a été fait il y a déjà quelques années. C'est une société qui s'appelle Cyclacel qui a racheté une licence d'exploitation sur le brevet déposé par le CNRS sur la roscovitine. Quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, ce n'est pas une mauvaise idée de déposer un brevet pour protéger.
Et on y reviendra.
Voilà. Et puis, la société a levé des fonds et dépensé de l'argent pour faire des études précliniques de toxicité et ensuite a eu l'autorisation de faire des tests chez l'homme. Donc, les tests chez l'homme, l'étude clinique se présente en trois phases. Donc, la phase 1, l'objectif, c'est d'étudier la toxicité du produit donc, pour déterminer la dose maximale tolérée. Donc, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir injecter la quantité la plus grande avec le minimum d'effets toxiques. Alors, l'effet toxique, c'est très difficile à définir parce que quand vous avez un cancer qui menace votre vie, vous acceptez des effets secondaires assez importants. Par contre, si c'est un produit à destination plutôt cosmétique, là, vous voulez aucune toxicité. De même, si vous avez un traitement qui va être aigu, un traitement court, vous allez accepter une certaine toxicité, vous serrez un peu les dents et puis après, vous allez résister. Par contre, si c'est un traitement chronique, vous devez prendre tout le reste de votre vie, par exemple, ben là, vous ne pouvez pas supporter d'avoir
des effets secondaires
à répétition. Donc, la notion de toxicité est quand même assez variable. Donc ça, c'est la phase 1. La phase 2, ça vise à étudier l'efficacité du produit. Donc, est-ce qu'il a les mêmes effets qui ont été observés sur les cellules en culture et dans les modèles animaux? Donc là, par exemple, dans le cas des cancers, il y a 200 types de cancers. Est-ce que le cancer de la prostate va répondre par rapport au cancer du sein, etc. Donc il faut tâtonner un petit peu. Et en s'appuyant sur les études de toxicité, quelle est la dose maximum tolérée. Alors une fois que vous avez un produit pas trop toxique, qui a une certaine efficacité sur une pathologie définie, eh bien on passe à la phase 3, qui est l'étude comparative. Parce que c'est bien beau d'avoir un produit efficace, mais encore faut-il que ce soit plus efficace que ce qui existe déjà comme traitement. Donc, il faut faire une comparaison très sérieuse. Donc, dans les mêmes conditions, dans les mêmes hôpitaux, souvent en double aveugle, on étudie l'effet du produit en comparaison avec le traitement usuel. Et donc là, l'objectif, c'est de voir si le produit est plus efficace, s'il y a un gain thérapeutique.
Vous êtes en train de nous dire en fait que les choses, ce n'est pas encore vraiment gagné.
Ah non, non, c'est jamais tout à fait gagné. Donc là, dans le cas de la roscoïtine, on est en fin de phase 2 pour cancer du poumon, un cancer qui s'appelle non à petite cellule, donc pour lequel il n'y a pas de traitement, et également en phase 2, en fin de phase 2 contre cancer du nasopharynx. Donc là aussi, il n'y a aucun traitement. Les résultats sont encourageants, mais il faut encore continuer l'étude de phase 3.
De comparaison
par rapport vraiment à le traitement minimal, maximum qui existe actuellement. Et puis après, si ça marche bien, là, le produit entre sur le marché, est commercialisé. Et là, il y a une phase 4 qui consiste à suivre le produit chez les premiers patients qui ont...
Pour voir après quels sont les autres effets secondaires, par exemple.
Il y a des choses qui ne sont pas prévues, qui apparaissent, parce que les gens prennent d'autres médicaments, des combinaisons qui sont défavorables.
Et le panel est plus important.
Voilà, vous avez des gens qui... Les végétariens ou les mangeurs de viande ne vont pas réagir de la même façon.
Alors, il y a la roscovitine et puis il y a les bromoindirubines. Je ne sais pas si je prononce bien.
C'est très bien.
Alors, à quoi correspondent ces bromoindirubines ?
Bromoindirubines, c'est une autre famille de molécules qui nous a beaucoup intéressés. Ce sont des molécules d'origine naturelle. L'indirubine, c'est un isomère de l'indigo. L'indigo, c'est le colorant bleu le plus couramment utilisé dans le monde, ce qui colore les blue jeans, par exemple. Et donc, autrefois, l'indigo était produit à partir d'extraits de plantes. La plante qui produit le pastel dans le sud de la France ou les indigos asiatiques. Et en fait, il y a un mélange quand on extrait le colorant. Il apparaît bleu, mais en fait, il est un petit peu teinté. Donc, il y a un peu de rouge. Il y a 95% d'indigo et 5% d'indirubine. L'indigo, c'est bleu. L'indirubine, c'est rouge. Ce qui fait que ça donne des teintes un petit peu violettes. Et l'indirubine, en fait, ça s'est révélé être un inhibiteur de kinase assez intéressant, très efficace. Et la chimie, on la connaît bien, on peut faire beaucoup de dérivés. Et donc, on a pas mal travaillé sur cette famille de composés. Et les bromo-indirubines sont des indirubines avec un brome à certains endroits spécifiques. Alors, ces indirubines, on les retrouve dans des mollusques, dont la pourpre de Méditerranée. Donc, qui a fait la fortune et la réputation des Phéniciens. Donc, ils avaient compris qu'on pouvait extraire des murex, un colorant qui est superbe, très riche, très rare et très coûteux. Et ce colorant, en fait, ce sont des indigos et des indirubines bromés. Donc, on a travaillé sur ces composés, on a réextrait à nouveau à partir de murex, identifié les composés et fait des dérivés synthétiques.
Et là aussi, quels seraient les intérêts, le potentiel thérapeutique ?
Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des activités pour maintenir les cellules souches à l'état embryonnaire et pluripotentes. On s'est rendu compte qu'en cultivant ces cellules, en présence d'indurbine, on les maintient capables de se différencier dans plein de tissus différents. Donc ça, c'est un aspect technologique. Auparavant, il fallait incuber ces cellules avec des extraits de milieux de culture de cellules de souris, donc ce qui, évidemment, empêchait leur utilisation ensuite en médecine. Donc là, on a levé un petit peu ce verrou. Et une autre application qui nous intéresse beaucoup, c'est l'utilisation contre certains virus, la réplication de certains virus, qui utilisent certaines kinases, nos propres kinases, à leur profit. Et donc, si on peut les bloquer, on peut peut-être bloquer la réplication de ces virus.
J'ai lu que ces bromo-indirubines permettraient d'élaborer des lignées de cellules souches pour ne pas recourir à des embryons.
Ce n'est pas tout à fait le cas, mais pourquoi pas, oui. La grosse différence, c'est surtout qu'on peut, cultiver ces cellules sans faire appel à des cellules de souris ou qui émettent des facteurs qui maintiennent les cellules à l'état embryonnaire. On remplace tout ce système. Évidemment, on ne pouvait pas injecter chez l'homme des tissus de souris ou des milieux de culture de cellules de souris. Ça poserait des tas de problèmes. Évidemment, il doit y avoir des tas de virus associés à ces cellules qui sont incontrôlables. Donc, avoir un produit synthétique défini, là, ça pourrait remplacer ça. Alors après, est-ce que c'est utilisable pour éviter les embryons ? Je l'espère, je le souhaite. Je pense que c'est certainement à l'étude.
On marque une courte pause, si vous voulez bien, Laurent Meyer. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Pour ou contre les OGM, l'émission Regards croisés vous propose un débat entre deux scientifiques avisés sur la question, Gérard Toulouse et Pierre Feillet. Faites-vous votre propre opinion à l'écoute des arguments des deux parties en téléchargeant librement cette émission sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Parcours en compagnie de Laurent Meyer. Dans cette deuxième partie d'émission, Laurent Meyer, j'aimerais vous poser la question suivante. Il semble que l'on semble s'intéresser depuis assez peu à l'océan et à ce que peut nous présenter l'océan pour recourir à nos maladies.
Donc c'est vrai, hein, la plupart des médicaments que l'on utilise actuellement sont dérivés de substances naturelles provenant essentiellement de plantes terrestres ou de micro-organismes terrestres.
Il semble qu'on n'y ait jamais pensé,
à
moins que ce soit des questions de difficulté.
La difficulté, c'est d'avoir accès au milieu marin. La zone de marée, bon évidemment, c'est relativement facile. La plongée, ça vous donne accès jusqu'au 50 ou 100 premiers mètres de profondeur. Et après, c'est la boîte noire, il y a très peu d'accès. Et au total, il y a quand même une grande surface qui est couverte par les océans, 70% de la planète. Et la profondeur moyenne, c'est 4000 mètres. Donc vous voyez, c'est totalement, pratiquement inaccessible. Donc il y a une grande richesse d'organismes. Et en conséquence, il y a une grande richesse chimique et biochimique. Et dans lequel ça vaut le coup de puiser. Donc, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de chimistes qui s'intéressent à extraire, purifier, identifier des nouveaux composés à partir d'organismes marins, en particulier d'invertébrés, et de voir s'ils peuvent être utilisés pour des applications biomédicales. Donc il y a déjà deux produits qui sont sortis sur le marché. Un produit qui sert à lutter contre des très fortes douleurs, des grandes douleurs, qui résistent complètement à la morphine. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Donc ça, c'est des molécules tirées des cônes, donc les coquillages, qui sont des prédateurs, des chasseurs, qui ont un petit harpon.
Pour pouvoir anesthésier leur proie.
Voilà, qui anesthésient leur proie. Et avec ce harpon, ils injectent des toxines, des petits peptides. Et certains de ces peptides ont des actions anesthésiantes extrêmement puissantes. Le deuxième composé, c'est un produit anti-cancéreux qui est dérivé d'acidie. Donc l'acidie, c'est, on peut dire, en schématisant, les derniers invertébrés avant les vertébrés. Et ce sont des animaux filtreurs et on synthétise beaucoup de produits. La richesse aussi, on la retrouve particulièrement, la diversité chimique, on la retrouve particulièrement dans les invertébrés plutôt fixés au substrat, mous, donc qui seraient des proies faciles pour des prédateurs. Et en fait, on s'aperçoit que ces organismes se défendent de façon chimique en synthétisant des composés qui repoussent des prédateurs éventuels. Et également, ils synthétisent des molécules pour empêcher d'autres organismes de s'installer sur leur dos. Il y a une pluie, faut imaginer qu'il y a une pluie de larves qui leur tombe sur la tête en permanence et qui ne demandent qu'à trouver un endroit pour s'installer et se développer. Donc il faut lutter contre ces envahisseurs, il faut lutter contre ces prédateurs. Et la guerre chimique semble la meilleure voie. Alors, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué parce que tous ces animaux qui sont filtreurs sont... je vais dire infestés, mais en fait, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils sont infestés par des bactéries qui vivent à l'intérieur des systèmes de filtration, qui représentent des grandes surfaces. Et donc, il y a des tas de colonies bactériennes qui vivent à l'intérieur, par exemple d'une éponge. Et ces micro-organismes, ces bactéries, eh bien, sont en guerre les unes avec les autres pour occuper le terrain. Et donc, souvent, c'est elles qui synthétisent les produits pour lutter contre la bactérie voisine.
Ce n'est pas l'éponge elle-même, en fait. C'est les locataires, on va dire, les hôtes qui vont finir par induire une certaine sécurité vis-à-vis de cette éponge.
Voilà, donc l'éponge sert de protecteur, et puis pour les bactéries, et les bactéries fournissent la protection vis-à-vis de l'extérieur.
Un cercle vertueux, en d'autres termes. Mais question, alors, on était sur les éponges à l'instant, poursuivons sur les éponges sur lesquelles vous avez travaillé en partie pour la roscovitine.
Ou pour d'autres composés, oui.
Et d'autres composés, faudrait-il, question peut-être idiote, mais élever un nombre suffisant d'éponges pour pouvoir synthétiser les molécules qui nous intéressent ?
Si vous avez une molécule intéressante, qui visiblement a des applications, vous avez trois façons de l'exploiter. La première façon, évidemment, c'est faire de l'aquaculture, élever des éponges. Alors pourquoi pas, mais c'est très compliqué, vous avez des risques, comme tout élevage, de contamination. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est très risqué, c'est fragile.
Et pour une demande, j'imagine, importante, si c'est pour soigner des cancers ou autres maladies.
Donc il y a une plus-value importante, c'est pas l'éponge qui va servir dans votre baignoire. Il n'y a pas une plus-value énorme sur l'utilisation ou la vente. Par contre, c'est une méthode, disons. Alors, une autre méthode, ça consiste à identifier la molécule et la synthétiser chimiquement. totalement. Donc vous êtes inspiré de la molécule de la nature, mais après vous la synthétisez entièrement. Alors là, il y a des gros avantages, c'est que vous mettez au point un protocole, là c'est complètement reproductible, et puis vous êtes indépendant de la production par l'animal. Donc au passage, vous ne faites pas trop de dégâts dans l'environnement, surtout si vous avez une méthode chimique clean.
Alors comment vous allez faire, revenons à la maladie d'Alzheimer, qui est la raison pour laquelle vous recevez le prix Jungfleisch, d'ailleurs, qui va vous permettre de travailler encore plus sur la maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives, j'imagine. Comment ces molécules vont pouvoir limiter cette maladie neurodégénérative qu'est la maladie d'Alzheimer? Parce qu'il faut pénétrer dans le cerveau pour le coup.
Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie complexe, compliquée, qui pose beaucoup de défis. D'abord, le premier point, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les causes réelles de la pathologie. Bon, certains cancers, c'est clair qu'il y a des causes identifiées. Donc si vous supprimez la cause, vous supprimez l'amiante, vous supprimez le mésothéliome une vingtaine d'années plus tard. Ce n'est pas le cas pour la maladie d'Alzheimer. C'est clairement lié à l'âge. Donc là, c'est vraiment clair. Par contre... Et vous avez également, dans certaines familles, une maladie vraiment génétique, mais ça représente que 5%, moins de 5% même des maladies d'Alzheimer. Donc le reste, c'est plutôt quelque chose dans l'environnement qui nous affecte. Alors ça, c'est difficile. Identifier la cause, c'est quand même la voie royale, hein, évidemment, si vous pouvez la supprimer. Alors après, à côté de ça, vous avez le traitement lui-même. Il faut imaginer que c'est une maladie neurodégénérative, donc il y a eu une perte mortalité cellulaire. Donc ce qui est mort, on ne va pas la régénérer. Par contre, ce qui peut être envisagé, c'est de stabiliser la maladie.
De ralentir.
Et de ralentir sa progression. Alors les progrès dans le traitement de la maladie d'Alzheimer vont venir de la découverte de nouveaux traitements, mais également, vraiment de façon conjointe, également des progrès dans la détection précoce. Hein, si vous avez la détection se fait sur des tests de comportement, donc en fait votre maladie est déjà avancée quand vous présentez des signes de ce type. S'il y avait des méthodes qui permettraient de détecter dans le sang ou dans l'urine ou de façon simple que vous avez le début de la maladie d'Alzheimer, ça n'affecte pas encore votre capacité de mémorisation, votre intégration dans la société, tout ça, mais vous êtes déjà sur la voie, eh bien on pourrait commencer des traitements pratiquement préventifs qui ralentirait la maladie, et à ce moment-là, vous auriez toutes les chances de mourir d'autre chose avant. L'objectif, c'est de ralentir au maximum par un traitement, et la détection précoce permettra de définir quand est-ce qui il faut traiter.
Mais alors, comment la molécule va pouvoir, je vous repose la question, comment cette molécule va pouvoir agir sur le cerveau?
Alors ça, c'est aussi un point difficile dans cette maladie, c'est que le cerveau est protégé par une barrière, la barrière hématoencéphalique, donc qui... protège notre cerveau d'un grand nombre de toxines qui circulent dans le sang, par exemple. Et donc, il faut que le produit traverse cette barrière pour atteindre les cellules nerveuses qui sont en train de dégénérer. Alors, pour qu'il traverse, heureusement, on sait qu'il y a des produits qui traversent cette barrière, donc ce n'est pas impénétrable. Les antidépresseurs, les somnifères, l'alcool, ça traverse la barrière. Donc, ça existe. Par contre, c'est très difficile de prévoir à l'avance, d'après la structure de la molécule, si le produit va traverser ou pas la barrière. Donc il faut faire des tests, il y a des essais à mettre au point et il faut valider ce passage. Et puis après, il faut espérer que le produit n'aura pas d'effet secondaire majeur.
Laurent Meyer, on marque une deuxième pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Nous parlerons de votre société et nous parlerons des avancées à venir et notamment aussi des brevets. Nous parlerons de brevetabilité. À tout de suite.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Suite de notre émission Parcours, toujours en compagnie de Laurent Meyer, avec qui nous parlons de sa carrière, de sa recherche, de ses recherches, de ses découvertes. Vous travaillez à Roscoff. Vous vouliez rajouter quelque chose sur les éponges, puisque c'est vrai qu'on a commencé à parler des éponges et je vous ai coupé, j'ai dit qu'on marquait une courte pause. Alors je vous laisse poursuivre.
Donc les choses sont encore un peu plus compliquées. Les éponges ont des molécules chimiques, en réalité sont produites par des bactéries. Et puis il y a certains mollusques qui s'appellent les nudibranches, qui se nourrissent d'éponges. donc qui incorpore les produits toxiques ou les petites molécules synthétisées par les bactéries et qui du coup deviennent toxiques pour des prédateurs. Alors ces nudibranches sont caractérisées par des très belles couleurs, elles sont visibles de loin, les prédateurs les voient très bien, c'est l'inverse du camouflage, hein, ils sont très détectables. Et les prédateurs savent que tel coloris et tel dessin, ça correspond à quelque chose de très toxique. Donc voilà, ils se protègent en se montrant au maximum, parce que tout le monde sait qu'ils sont toxiques. Mais leurs toxines viennent des éponges qu'ils mangent, et les toxines viennent des éponges, viennent des bactéries.
Poursuivons, si vous voulez bien, sur votre entreprise créée en 2007, Manrose Therapeutics. Man pour Manhattan et Rose pour Roscoff. On voit toujours cet attachement à Roscoff. Pourquoi avoir créé cette société? J'imagine que c'était pour une question de brevet.
Alors en fait, les molécules sur lesquelles on a travaillé ont été protégées par des brevets qui appartiennent au CNRS, hein, puisque je suis employé du CNRS, donc ce que je fais appartient, les résultats appartiennent au CNRS. Des brevets ont été déposés, mais si vous voulez les exploiter, ben, il y a plusieurs solutions. Le CNRS peut revendre des licences d'exploitation à des sociétés de tailles diverses. Et une des façons de les exploiter, évidemment, c'est de revendre ces brevets ou ces licences à des petites sociétés. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de créer une entreprise de biotechnologie qui exploiterait certains de nos brevets. Donc, on a racheté 4 licences d'exploitation.
Les vôtres, en l'occurrence?
Oui, voilà. Donc, ce qui est logique, hein, ça appartient au CNRS, mais l'ouvrier de chez Renault, s'il veut acheter une Renault, il est obligé de payer sa voiture. C'est normal. L'idée, eh bien, c'est de... pourquoi créer une petite société comme ça? Eh bien, c'est peut-être la meilleure façon pour pousser les produits vers le développement clinique. Donc ça, ça ne correspond pas à la fonction ni aux moyens du CNRS ou du milieu académique. Ça relève plutôt de petites sociétés de biotechnologie. Donc ils vont récupérer des inventions, des composés, des molécules du milieu académique, les développer, puis les revendre à des grosses sociétés comme Sanofi, Novartis, Pfizer, qui elles seules sont capables terminer les études cliniques et d'amener les produits sur le marché.
Cette étape intermédiaire entre l'interface recherche et puis l'aspect laboratoire.
Voilà. Alors qu'est-ce que fait une petite société de biotechnologie? Eh bien, elle prend des composés, elle en fait l'étude préclinique, l'étude de toxicité réglementaire, elle mène les produits en phase 1, ensuite elle les mène en phase 2 et elle les revend à l'issue de la phase 2. Alors, de temps en temps, il lui arrive de revendre plus tôt parce qu'il faut bien générer un peu d'argent pour faire survivre la société et faire vivre la société. Et donc, il lui arrive de vendre certains des projets pour soutenir le développement des meilleurs produits.
Pourquoi Manhattan? Vous êtes aussi installé aux États-Unis?
Alors, notre objectif, c'est d'avoir une filiale aux États-Unis et en particulier donc à New York, à Manhattan, où j'ai passé 3 ans et j'ai vu que c'était un site parfait. Alors, de plus, il y a un site d'accueil pour des sociétés de biotechnologie qui est en construction sur l'île dans le sud de l'île de Manhattan et qui est destiné à accueillir des dizaines de sociétés de biotech. Et en particulier, ils sont intéressés par des biotech européennes. Donc, ils pourraient avoir un pied à terre aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est la moitié du marché pharmaceutique est aux États-Unis. Donc, c'est quand même bien d'être sur place dès le départ. Ensuite, il y a des investisseurs potentiels à New York. Ça n'en manque pas. Hein. Et ensuite, il y a ce qui me touche un petit peu à cœur. Hein, c'est il y a pas mal de Français, de jeunes Français et de jeunes Européens, excellents scientifiques qui sont exilés aux États-Unis. Et donc, j'aimerais bien faire un petit peu d'exfiltration et d'aller en récupérer quelques-uns par l'intermédiaire de cette société.
D'accord. Rattraper la fuite des cerveaux et installer votre entreprise et employer éventuellement des Français, des Européens au sein de votre entreprise.
Voilà. Transformer des exilés en expatriés.
Quel est l'avenir de votre entreprise? Question bête. Alors, j'imagine qu'il est très prometteur, mais est-ce que vous avez déjà des choses vraiment qui marchent très bien?
Alors, on essaye d'avoir une petite stratégie. C'est pas les sociétés de biotech sont des objets fragiles. Ben, notre stratégie, c'est d'avoir un projet à court terme qui est des produits contre la polykystose rénale qu'on revendrait assez rapidement. Ensuite, à moyen terme, c'est cancer, leucémie, cancer, tumeur solide et leucémie. Donc ça, c'est un peu sur quelques années. Et puis, le long terme, c'est un peu notre graal, c'est la maladie d'Alzheimer. Hein, comme je vous disais, plus difficile, plus complexe, mais aussi vraiment qui répond à une question majeure. Donc l'objectif lointain, c'est d'arriver à des produits en clinique sur la maladie d'Alzheimer. Et l'objectif encore plus lointain, malgré mon grand âge, hein, il faut quand même avoir des objectifs lointains. Il faut, créer une société pérenne, donc qui financerait des projets précoces par des financements, des retombées de ces projets anciens, et ainsi de suite.
Alors, que de chemin parcouru entre la recherche en biologie marine et le chef d'entreprise que vous êtes devenu avec Hervé Gallon, précisons, vous êtes associé tous les deux.
C'est une société de biotechnologie un peu particulière puisqu'elle a autant de chimistes que de biologistes. Et toute la chimie est pilotée par Hervé Gallon, qui est professeur à l'université Paris 5, Paris Descartes, et avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Donc lui est responsable du développement de toute la partie chimie et moi des applications biologiques.
Donc la biologie marine, chef d'entreprise maintenant, toujours en étant la casquette aussi directeur de recherche au CNRS.
Voilà, donc là la loi du 25-2 autorise les chercheurs du milieu académique à travailler et à monter des sociétés dans la mesure où ils valorisent leurs propres travaux.
Pour terminer, terminons sur le prix Emilie Jungfleisch, un des prix parmi tant d'autres que vous avez reçus et certainement d'autres que vous allez recevoir. Grand prix de l'Académie des sciences, doté d'une somme, alors pardonnez-moi de le dire, mais c'est intéressant, c'est 150 000 euros. Vous allez investir au sein de votre laboratoire au CNRS, j'imagine, pour la recherche sur Alzheimer.
Voilà, en particulier sur le projet Alzheimer, qui est étonnamment le plus difficile à financer. Donc, on a deux pistes principales. La première, c'est travailler sur les molécules qui sont inductrices de la maladie d'Alzheimer pour essayer de voir si on peut mettre au point des tests permettant de détecter dans notre environnement quelles sont les molécules qui pourraient induire la maladie d'Alzheimer. Alors, ce sont probablement des molécules qui ne sont pas toxiques, injectées dans une souris, n'ont pas une toxicité aiguë, mais ils auront, sur le long terme, par accumulation, peut-être un effet pro-Alzheimer. Donc là, on est en train de mettre au point un test cellulaire qui permet de détecter ce type de produit. Et donc, évidemment, si on trouve quelque chose dans notre environnement, ça sera un signal d'alerte. Et le deuxième projet, c'est l'inverse, c'est rechercher des molécules qui vont bloquer le développement ou ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est une approche plus classique, donc pour en vue de traitement des personnes qui sont déjà atteintes.
Donc, à suivre, donc.
Voilà, prévention et traitement, c'est les deux pistes.
Merci Laurent Meyer. Je précise que vous allez donc recevoir le 13 octobre 2009 le prix Emilie Jungfleisch sous la coupole de l'Institut de France à l'Académie des sciences. Et puis nous souhaitons donc bonne chance, bonne continuation dans vos recherches et dans votre entreprise. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.